On suit la grève des fonctionnaires territoriaux. Ils sont peu à suivre le mouvement, mais ça impacte beaucoup de monde. On s'intéresse au débat à l'Assemblée avant de vous parler de la promotion de la Polynésie en métropole. Le journal de 7h de Radio 1 et Thierry FM, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
La grève des fonctionnaires territoriaux entame son cinquième jour.
Et oui, on le sait, cela concerne notamment les pompiers d'aérodrome, ceux qui perturbent fortement les vols intérieurs. Du côté d'Air Tahiti, 250 trajets ont déjà été annulés depuis vendredi. Plus de 4200 passagers, dont 800 touristes, ont été impactés. Mais le plus dur commence aujourd'hui pour la compagnie qui doit commencer à rapatrier 1200 élèves vers leurs îles respectives en vue des vacances scolaires. Pour y parvenir avant dimanche, la compagnie est en discussion avec la DG2E afin d'élaborer un nouveau programme. Celui-ci doit respecter le service minimum qui prévoit entre 1 et 7 vols par semaine et par aérodrome, une fréquence limitée que Air Tahiti peut aménager à sa guise. Écoutez Veyrani Tetaria, directrice marketing et commerciale de la compagnie.
Donc il y a un service minimum qui est établi entre le pays et les pompiers et nous allons essayer de faire en sorte de mettre en place ce service minimum pour rapatrier les élèves en priorité. Néanmoins, on sait d'ores et déjà qu'il n'y aura pas assez de vols minimum pour rapatrier tous les élèves, ça c'est sûr.
Les informations sur les vols maintenus ou non d'Air Tahiti sont à retrouver sur le site et la page Facebook de la compagnie qui tient chaque jour un point à 11h30 avec l'aviation civile.
Des grévistes avec un fort pouvoir de nuisance mais qui ne sont pas si finalement nombreux que ça.
Mais le gouvernement n'a compté que 458 grévistes parmi les fonctionnaires territoriaux hier, 160 de moins que vendredi, soit un taux de participation de 8,3%. Des chiffres sous-évalués selon les syndicalistes de la FRAP qui concèdent une baisse de participation à leur mouvement mais qui assurent avoir un impact important. En plus des 150 pompiers d'aéroport, plusieurs antennes de l'équipement dans les archipels sont à l'arrêt et une bonne partie des agents de la biosécurité manquent à l'appel. Gérard Barf, secrétaire général délégué de la fédération.
Vous avez tous les archipels d'équipement qui sont bloqués, sans grève. La biosécurité qui est à 90% va être bloquée. Donc les avions là, ils ne vont pas pouvoir sortir les marchandises de Noël. Là, les grandes surfaces, ils vont commencer à râler. Les paquebots, il y a des cargos qui arrivent la semaine prochaine, ce sera pareil. Les marchandises ne pourront pas, tant que la biosécurité ne viennent pas contrôler quels sont les produits, est-ce que c'est conforme à la commande. Il y aura les services de finances, des choses à mettre en place. Je répète encore, ce n'est pas la grève des pompiers, hein, c'est la grève de toute l'administration de la fonction publique territoriale.
Et d'après nos informations, les services de la biosécurité sont effectivement concernés par le mouvement, mais les plus forts taux de grévistes se trouvent en réalité du côté des agents de contrôle phytosanitaire. Le gouvernement semble tout de même parier sur un essoufflement du mouvement qui sera complété à partir d'aujourd'hui par le préavis déposé tardivement par le SFP, syndicat de la fonction publique.
Hier, les négociations se sont passées du côté de l'Assemblée.
Oui, les militants de la FRAP ont marché de la présidence à Tarahoy au moment où commençait une importante séance plénière et budgétaire de l'Assemblée. L'objectif, interpeller les élus du pays sur le refus du président, disent-ils, de négocier. Un refus contesté par l'intéressé qui répète que sa porte est ouverte et que c'est la FRAP qui balaie ses invitations. Qui que ce soit le fautif, le fait est que les discussions sont bloquées depuis près d'une semaine sur le plus gros point du cahier de revendications, le premier, l'augmentation de plus de 40% du point d'indice des fonctionnaires. Une question de justice sociale pour les grévistes et une proposition pas sérieuse pour Moëtte Brotherson. À l'Assemblée hier, les chefs de file du mouvement espéraient donc trouver une oreille plus attentive chez le président de l'institution et Tony Géraud a bien accepté de laisser son perchoir pendant près d'une demi-heure pour les écouter. Le secrétaire général de la FRAP, Jean-Paul Ourima, nous raconte.
Il a été très sensible à nos explications, à nos interrogations et du comment, du pourquoi et donc il nous a assuré qu'il tiendra un comité de majorité cet après-midi pour soumettre la question à l'attention des élus du pays. Voilà.
Un comité de majorité a bien eu lieu avant la reprise de la séance plénière hier en début d'après-midi. Quelques minutes entre Élu Tavini pour relayer les doléances du syndicat et confirmer que c'était bien cette question du point d'indice qui est bloquante, ce qui représente tout de même 11 milliards de francs par an à ajouter aux 34,9 milliards de francs que le pays dépense en personnel dans un budget que l'Assemblée discute justement. Face à cette équation compliquée, Jean-Paul Ourima attend de Tony Géraud qu'il mette la pression.
Qu'il mette la pression sur le président et qu'il prenne aussi ses responsabilités, le président du pays. La situation est assez grave quand même. Il attend quoi? Que tout s'arrête dans ce pays-là? C'est pas ce que nous recherchons. Ce que nous recherchons, c'est de pouvoir engager des négociations sur le premier point de notre préavis de grève.
Et en fin de journée, le syndicat a fini par avoir un retour du cabinet du chef de la majorité, qui a confirmé que le président du pays était bien en charge des négociations. Jean-Paul Ourima a donc contacté, en plus du SFP, Atiya Imoua et le CIFAP. Il n'a pas contacté en revanche la CSTPFO. Qu'importe, l'essentiel est de pousser le pays à convoquer lui-même ses partenaires sociaux.
Il veut consulter les organisations syndicales. Nous lui disons, ok, convoquer les 5 organisations dès maintenant et nous viendrons. Si on veut se sortir de cette ordinaire de ce conflit, je pense que c'est la seule manière de le faire.
Jean-Paul Ourima qui répondait à Charlie René.
Il est 7h06, ça va chauffer à l'Assemblée.
Et la semaine dernière, nous vous parlions de la résolution que Tony Géraud veut faire adopter par Tara Hoy pour demander à l'État d'ouvrir le dialogue de décolonisation tel que préconisé par l'ONU depuis 2013. Eh bien, les 19 membres de l'opposition, Tapura et Ahip, ainsi que l'élu Tavini et Namoera Morgante, ont déposé une proposition de modification. On écoute Caroline Perdri.
Oui, les 20 signataires demandent l'insertion d'un alinéa qui stipulerait que, je cite, « préalablement à cette demande d'ouverture du dialogue de décolonisation », il sera organisé une consultation des électeurs sur le sujet. Dans l'exposé des motifs, ces élus estiment que face à l'échec manifeste de ces démarches sur la scène internationale, le Tavini semble aujourd'hui opérer un virage stratégique. Il cherche désormais à s'appuyer sur les institutions de la Polynésie française pour porter et légitimer son combat en faveur de l'indépendance. Mais l'opposition rappelle le poids de la prime majoritaire dans la composition de l'Assemblée. Le Tavini ne dispose que d'une majorité relative dans l'électorat, rappelle-t-elle, d'où l'interrogation dans ces conditions. Pour qu'une proposition de résolution de cette nature puisse être portée avec une réelle légitimité, ne serait-il pas judicieux de consulter nos populations sur le principe fondamental de notre évolution statutaire ?
Et ils ajoutent que ce serait l'occasion pour le Tavini d'expliquer leur projet de société, notamment pour ce qui concerne la prise en charge des compétences en matière d'éducation, de sécurité et de justice. On rappelle que cette résolution s'accompagne aussi d'une proposition de délibération habilitant le président de l'Assemblée à aller en justice si la France continue à faire la sourde oreille. Ces deux textes portés par Tony Géraud doivent être examinés avant demain soir, soit la fin de la session budgétaire.
À l'Assemblée toujours, Val-de-Marne, 3 textes fiscaux ont été adoptés hier.
Et ce, non sans l'examen de nombreux amendements de l'opposition, tous rejetés. Les élus du Tapura et de Haïre Yaporinetia souhaitaient notamment faire baisser davantage les droits d'enregistrement sur les acquisitions immobilières et alléger davantage les impôts et taxes sur les matériaux de construction. L'examen du budget à proprement dit a aussi commencé avec toujours plus d'amendements de l'opposition. Il y a également quelques 200 questions à poser.
Des chiffres désormais, ceux de l'hôtellerie.
Oui, l'ISPF, l'Institut de la Statistique, a communiqué les données de la fréquentation hôtelière en octobre dernier. On y constate notamment ce bond, celui du nombre de chambres disponibles à la location aux Fénois, plus 7% tout de même pour un total de 79 550 chambres. La Polynésie compte désormais plus de chambres proposées à la location qu'avant la période Covid. En ce qui concerne le nombre de clés louées, elles ont augmenté de 2,5 points entre octobre 2023 et octobre 2024. Ces deux dernières données prises en compte, le taux de remplissage baisse donc logiquement de 3,5% en un an, mais le revenu moyen par chambre louée, lui, monte de 16%. En 5 ans, ce revenu a presque doublé.
Et puis, il y aura un pavillon polynésien à la prochaine Foire de Paris.
C'est en tout cas le projet sur lequel travaillent les autorités du pays, en étroite collaboration avec Steven Abajoli, directeur de cet événement incontournable de la capitale française. Depuis plus de 15 ans, cette foire commerciale qui rassemble chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs ne compte que 2 ou 3 stands polynésiens, alors que toutes les autres collectivités d'outre-mer ont leur propre zone. Écoutez Steven Abajoli.
Et la Polynésie est présente avec quelques exposants qui viennent de manière individuelle et qui offrent pour l'instant aux visiteurs de la Foire de Paris l'opportunité de rencontrer des Polynésiens. Mais voilà, nous avons bon espoir de pouvoir construire quelque chose qui sera plus à l'image de la Polynésie et qui pourra occuper une place importante, parce que on questionne nos visiteurs sur chaque édition et ils ont à cœur d'avoir la chance de pouvoir rencontrer des Polynésiens, parce que c'est pas un pays qui est à côté.
Et Steven Abajoli évoque même l'idée d'une journée spéciale dédiée à la Polynésie au cours de la prochaine foire qui est prévue du 30 avril au 11 mai. Cette journée pourrait inclure des démonstrations de savoir-faire, des danses traditionnelles et même une présentation des destinations touristiques. Il va rencontrer ce matin le président, ses ministres, mais aussi les représentants de la CCISM pour étudier ce dossier dans les détails. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve à 7h30 pour la revue de presse. Le prochain point avec l'information locale, c'est à 8h avec le Flash. Et puis je profite de de l'occasion qui m'est donnée pour vous informer qu'on aura un invité au journal de midi. Il s'agit d'Alexandre Mou, le fondateur de Motulink, qui nous parlera de sa campagne de crowdfunding pour acheter le premier avion cargo Interil, à retrouver donc dans votre édition de la mi-journée.
Merci beaucoup Valdemar pour ce journal. Maintenant, c'est la météo sur